Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je suis porté.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 20 novembre, c'est l'émission Cinérama, émission de cinéma. Bonjour Manu.
Bonjour.
Et nous ne dirons pas bonjour à Marine qui nous rejoindra la semaine prochaine. Alors nous sommes deux pour développer un sommaire qui pourrait être sous-titré « Deux génies, cinq associés une cloche ». Deux génies, ce sont deux réalisateurs. On aurait pu même mettre trois génies.
Donc, bah oui, Ridley Scott, Brian De Palma et éventuellement Cormac McCarthy.
Voilà, puisque nous allons parler alors de Cartel, qui est sorti la semaine dernière. Et puis toi, tu vas nous parler d'un De Palma.
D'un De Palma, Fury, qui sort donc en DVD chez Carlotta. Et puis je vais vous parler évidemment du blockbuster de la semaine, Évasion, avec Stallone et Schwarzenegger.
Alors là, c'est pareil, j'ai dit une cloche, mais on aurait pu mettre deux cloches.
Quand même,
oui, voilà. Et puis les cinq associés, ce sont les cinq stars qui figurent dans le film Cartel, avec lequel nous allons commencer ce cinérama. Et à ne pas oublier aussi, le film avec Schwarzenegger et Stallone nous donne l'occasion de jouer un blind test avec sept extraits à deviner dans la filmographie de Schwarzenegger.
Et pourquoi
si
pas.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Le film qui aligne le casting le plus alléchant de l'année a été écrit à deux mains par un duo de vieillards, Cormac McCarthy, 80 pruneaux compteur, et Ridley Scott qui a 4 ans de moins. Alors si Ridley Scott a une longue filmographie d'une vingtaine de films, de Alien à Thelma et Louise en passant par Gladiator et Prometheus, pour Cormac McCarthy c'est un peu plus mince, une dizaine de romans, la plupart remarqués quand même. Son dernier La Route lui a même valu le prix Pulitzer. Plus étonnant encore, 5 de ses romans ont été adaptés à l'écran, dont les excellents La Route de John Hillcoat et le parfait No Country for All Men des frères Coen. Donc avec un roman sur deux adapté, on peut dire que McCarthy est une valeur sûre et appréciée d'Hollywood, à tel point donc qu'il signe le scénario de ce casting 5 étoiles. Alors mieux vaut ne pas se rater donc, même si les bons comédiens peuvent faire oublier les mauvais scénarios, on aurait quelques exemples à donner. No Country for Old Men était sombre, La Route également, et le scénario de Cartel l'est également, mais dans une forme presque conceptuelle, c'est-à-dire que le pessimisme qui traverse l'histoire de Cartel passe par des artifices formels d'écriture et de mise en scène. Alors d'abord, des personnages plutôt romanesques, d'immondes salauds qu'on croirait agrégés de lettres modernes qui seraient chefs d'un cartel, un dealer partagé entre le bling-bling et l'analyse existentielle qui serait joué par Javier Bardem, une sainte et belle créature qui serait sa femme dans la vie, Penélope Cruz, une femme fatale qui s'ennuie, tant et si bien qu'elle dérange les serviteurs de Dieu pour pimenter son existence. Elle est aussi terriblement matérialiste et sa libido est intense. Alors, combinant ces deux péchés, eh bien, elle est capable de faire l'amour à une Ferrari. Et ça, Cameron Diaz, en robe moulante, pourrait jouer
grand
ça.
En grand écart, en plus.
En grand écart, tout à fait. Un homme de droit passionné par une femme et qui devient dupe de sa chute pourrait être interprété par Michael Fassbender. Et enfin, un entremetteur, connaissant parfaitement les rouages du cartel mexicain, se croyant inatteignable, joué par un Brad Pitt aux cheveux longs, pourrait très bien faire l'affaire. Voilà, on a développé le casting et les personnages. Alors si on cherche un autre élément conceptuel dans ce film, Cartel, on le trouvera par exemple avec le nom du personnage de Fassbender qui se fait appeler tout simplement l'avocat, le fameux counselor du titre original. À aucun moment nous n'aurons son prénom comme s'il se résumait à une fonction alors qu'il est bien un personnage à part entière. Alors Cartel est un film où l'on perd son nom mais aussi où l'on perd la tête au sens propre. Ça, c'est l'ordre du discours, comme au sens figuré. Et ça, c'est emprunté au cinéma de gangster, puisqu'il y a vraiment des têtes qui sont coupées dans le film. Alors, pour faire simple, l'avocat veut se marier avec la belle Penélope Cruz. Il finance un passage de drogue du Mexique, qui produit la drogue aux USA, qui la consomme. Un coup censé lui rapporter de quoi offrir des bijoux à la belle. Il est aidé par Javier Bardem et Brad Pitt. Ces deux-là le mettent en garde, à leur manière, contre les Mexicains, si les choses tournaient mal. Et elle ne tourne finalement pas très bien. Alors machination, trahison, vengeance, punition et leçons données à l'occasion, voilà le carburant de Cartel.
Ma vie, c'est être lié avec toi. Tout le reste n'a pas d'importance. Tu dis oui ?
Je dis oui.
Je compte t'aimer jusqu'à ma mort.
Moi d'abord.
Voilà un élément fondamental de la structure narrative hein, qui va nous plonger dans le pessimisme. Le début du film nous présente donc le couple Cruz-Fassbender comme un idéal, une imagerie propre aux films sentimentaux. Mais face à ce bonheur ouaté, la drogue transportée dans un camion rempli de merde, là encore le sens figuré rejoint le sens propre, a-t-on envie de dire ?
Maître !
Je suis vraiment dos au mur.
Les problèmes d'argent sont des problèmes graves.
Je m'en occupe.
625 kilos. À la louche, il y en a pour 20 millions.
Moi, je sais pourquoi je suis là-dedans. Et toi ?
Très jolie bague. Tu veux savoir combien elle vaut ?
J'ai toujours pensé qu'un diplôme de droit était un permis de voler. Mais toi, on peut pas vraiment dire que t'en as profité.
Je suis inquiète, mon amour.
Tout ira bien. Si tu continues sur la voie que tu as prise, tu finiras par faire des choix d'ordre moral que tu n'aurais jamais pu imaginer.
Réfléchis bien avant de formuler un vœu. Tu pourrais le regretter.
Maître, on a un problème. La cargaison, elle a disparu. J'ai eu un coup de fil de nos associés. Ils ont perdu 20 millions.
Ils nous croient tous impliqués, c'est ça ?
Non, seulement vous, maître, vous. Ils ne croient pas aux coïncidences. Ils en ont entendu parler, mais ils n'en ont jamais vu.
Tu as des ennuis. Quand les coups vont partir, je serai déjà loin.
Je fais quoi à ton avis ?
C'est vraiment grave ?
Fin de la discussion.
C'est trop tard.
En un clin d'œil, je peux disparaître. Et vous ?
Le massacre à venir ? Il dépasse sans doute notre imagination.
Vous êtes le monde que vous avez créé. Et quand vous aurez cessé d'exister, ce monde que vous avez créé disparaîtra à son tour.
Alors Cartel n'est pas pessimiste hein, seulement parce que les personnages ne recherchent que le bien matériel et le fric ou parce que les Mexicains du cartel sont d'immondes salauds, mais plutôt parce que la majorité des personnages est dupe de son destin ou des actes qu'il a engendrés. Alors malgré les interrogations, les discussions aux frontières de la métaphysique, le discours est anéanti par la convoitise, l'aveuglement ou la violence. Les mots semblent vains et rappelons-nous.
Ils ne croient pas aux coïncidences. Ils en ont entendu parler. Mais ils n'en ont jamais vu.
Voilà, il y a plein de, comme ça, de petits dialogues un peu ironiques, bien trouvés. Cartel est une œuvre démonstrative bavarde, parsemée de quelques scènes de violence. Le scénario prend le pas sur la mise en scène de Ridley Scott quand même. Hein, mais formellement, la maîtrise est là. La lumière joue un rôle important dans le film, hein, plus ou moins tamisé selon les séquences, jusqu'à une scène spectaculaire d'exécution de nuit qui fait intervenir des torches tel un flash. Voilà, moi j'ai plutôt apprécié, même si c'est un peu troublant, voilà, comme film, de par son aspect un peu conceptuel et ses dialogues un peu fournis. Mais tu l'as vu, Manu, toi, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Je sais pas. Non, mais plus sérieusement, je ne sais pas si je suis passé à côté d'un grand film ou d'un nanar. C'est-à-dire, on a un peu le cul entre deux chaises quand on voit un film comme ça, parce que les dialogues. L'écriture, elle passerait très très bien en littérature et comme ça, collée aux images, à des images très léchées, limite publicitaires parfois, sur des personnages de gangsters, ça, parfois il y a une sorte de dichotomie. On n'est pas du tout, c'est pas très cohérent.
Voilà, il faut rappeler quand même que c'est des gangsters. Enfin, je ne sais pas à quoi tu fais référence pour les gangsters, mais pour moi, les seuls gangsters sont vraiment les Mexicains.
Oui, mais pas bon.
La lumière est franchement sombre. Enfin, voilà, il y a quand même des...
Bah, Javier Bardem, ce n'est pas non plus un type très, très net, mais... Mmh. Bah, franchement, je ne sais pas. Je suis... Alors, c'est un film où Ridley Scott est son propre producteur, et je pense qu'à sa façon, le film est on peut dire que c'est un film d'auteur, d'une certaine manière. Et il aurait été produit par les grands studios, on lui aurait dit non, on ne peut pas faire ça, quoi, c'est pas possible.
Oui, je pense. Oui.
C'est-à-dire que là, le film, il oscille des fois entre des vrais éclats de mise en scène, et puis parfois, ça tombe complètement à plat. Il y a des personnages qui pour moi n'ont aucun intérêt, comme Penélope Cruz, qui est totalement, pour moi elle est transparente.
Ouais, mais là c'est l'idéal, oui elle est transparente, oui. Mais elle est là, enfin voilà, comme l'idéal amoureux, enfin je veux dire c'est...
Oui, c'est... ça fait partie du côté conceptuel du film.
Ah oui, c'est très conceptuel là.
C'est vrai que les personnages ont du mal, enfin c'est, oui, c'est des, sont des, un peu des enveloppes pour moi, des enveloppes comme ça, et qui débitent un texte très littéraire, voire carrément philosophique, et ça laisse un peu dubitatif, surtout qu'on comprend pas grand-chose quand même à l'intrigue, globalement.
On peut être perdu.
Très vite.
Effectivement.
Si on pense à autre chose pendant 5 minutes...
Mais une partie de la salle a quand même un peu bâillé aux corneilles.
Je les comprends un petit peu en même temps.
C'est ça.
C'est peut-être un film à revoir, mais je comprends.
Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues. Alors après, c'est entrecoupé de scènes de violence qui sont propres aux films de gangsters, avec le sang qui peut gicler, enfin voilà.
Avec une scène de décapitation qui, pour moi, me laisse un peu dubitatif quand même. Hein.
Oui, mais très mise en scène. Là
très
aussi,
mise en scène, très brillante, mais pas cohérente du tout.
Elle n'est pas cohérente. C'est pour ça qu'on, c'est là aussi, ça en rejoint le conceptuel, parce qu'on se dit que c'est pas possible que ça se passe dans la vraie vie. Donc voilà, je pense qu'ils se sont amusés un peu.
Oui, oui. Mmh. Le film fait penser un peu du Michael Mann, en fait. Je pensais à l'ambiance, l'univers, des fois, de Miami Vice, qui avait comme ça un côté très, très abstrait. Mais je sais pas, j'ai l'impression, je trouve que Michael Mann, c'est beaucoup plus fort, parce qu'il se rattache quand même à des choses très, très terre-à-terre aussi. Mmh. Et bah voilà.
Ouais, alors que là, on sent vraiment une pensée, celle de McCarthy, et puis c'est pas un hasard, enfin, ses derniers films étaient quand même sombres, et là aussi,
c'est plus
sombre.
Que sombre, voilà. Moi je dirais que c'est carrément nihiliste.
Ouais. Donc, bien, ça passe toujours. Alors, en VO sous-titré, au Diagonal, j'imagine.
Au Diagonal.
Et puis, Gaumont. Oui. Et puis, au Gaumont en comédie. Et puis, sinon, en VF. Mais ça, ce serait dommage, enfin, vu le casting 5 étoiles.
Oui, et puis, vu l'écriture de McCarthy.
Ouais, c'est clair.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Bon, on va passer à un film beaucoup plus intelligent. Évasion, voilà. Si on accepte un caméo de l'Autrichien Schwarzy dans la série des Expendables, c'est bien la première fois que les deux icônes du cinéma d'action des années 80 sont réunies dans un même film. L'occasion rêvée de replonger dans un univers aujourd'hui un peu désuet à l'heure des blockbusters pyrotechniques, de jouer aussi sur les corps vieillissants des deux acteurs en fin de course après leurs bides respectifs du Dernier Rempart pour Schwarzenegger et du Plomb dans la tête pour Sylvester Stallone.
Une évasion réussie dépend de trois choses. Connaître les lieux, tout savoir sur la routine, et une aide à l'extérieur ou à l'intérieur.
On a un évadé !
Ray Breslin est capable de se barrer de n'importe quelle prison conçue par la main.
Nous testons un prototype de pénitencier pour les criminels dont plus aucun gouvernement ne veut entendre parler. Ceux qui financent le projet veulent s'assurer qu'on ne peut pas s'évader de ces lieux.
Le contact sur place ?
Le directeur s'appelle Roger Marsh.
On commence quand ?
On a commencé.
Bienvenue dans votre nouvelle demeure.
Je suis le directeur Hobbs.
Hobbs ? Où est le directeur Marsh ?
Il n'y a pas de directeur Marsh.
Faites-moi des potes, on aura besoin.
Barrez-vous.
Qu'est-ce que tu faisais avant de débarquer ici ?
Mon boulot, c'est de m'évader de prison.
T'as pas l'air aussi malin.
Tu t'es vu ?
Ceux qui ont payé pour que tu sois ici veulent que tu y restes à vie.
Ray a franchi la grille.
Non, le code, le tombeau. Si Ray est quelque part, c'est ici.
C'est où, ici ?
On m'a tendu un piège. Quelqu'un veut m'enterrer. Je vais découvrir qui et je vais découvrir pourquoi.
Je marche.
Faudrait faire diversion.
Ok. Tu frappes comme un végétarien. Ça, c'est mieux.
Qu'est-ce qu'il manigance ?
Il prépare une évasion.
Processus de verrouillage enclenché.
Remettez ces rats dans leur cage.
Si je sors pas d'ici,
je te tue. C'est bonne guerre.
C'est terminé !
Dites à ceux qui m'ont enfermé ici, je vais réduire cette prison en cendres.
Le bide d'évasion aux États-Unis ne relancera pas la carrière des deux Jojo les gros bras Et au fond, ce n'est peut-être pas plus mal. Pourtant, le film démarre plutôt bien. Stallone, il incarne, comme vous l'avez compris dans la bande-annonce, un roi de l'évasion, une sorte d'Houdini des temps modernes qui connaît tous les rouages de l'univers carcéral. Un peu trop, car son évasion rocambolesque, elle est tellement précise que ça frise la parodie. À côté, MacGyver, c'est vraiment un tocard. Hein. Mais au moins, ce prologue enlevé et ludique annonce le meilleur pour la suite. Il faut vite déchanter, parce que sans être une purge intégrale, l'évasion pêche par un scénario inutilement, retors, avec twist éventé toutes les 30 minutes et surtout baigne dans un climat politiquement correct, besogneux et pénible, au point que l'on en verrait bien nos deux lascars en maison de retraite. Première erreur des scénaristes, faire de nos deux personnages des braves types qui deviennent complices, voire les meilleurs amis du monde au bout de deux rencontres. Alors que franchement, qui n'a pas rêvé d'un affrontement entre Rocky et Conan le Barbare, un vrai, ou au moins un des deux incarnerait un vrai bad guy. Bref, un vieux fantasme adolescent ressurgit, mais Terminator a bien joué le méchant, Schwarzenegger a bien joué le méchant dans Terminator. Donc ça aurait pu être possible une rencontre comme ça, un véritable affrontement. Je pense que le film aurait été intéressant. Un peu à la manière, en mineur, du hit de Michael Mann, où on voyait Pacino et De Niro s'affronter. Bon, on va pas comparer l'incomparable non plus. Hein. Bon, du coup, Stallone accepte une mission suicide, ou plutôt tombe dans un piège où il n'a plus aucun moyen de sortir de la prison, dirigé par un fonctionnaire zélé dont on ne comprend pas les motivations. Dès que Schwarzy apparaît, on sait aussi qu'il est du bon côté de la loi, Évasion se transforme alors en un énième film de prison, shooté aux scènes d'action pas toujours lisibles et plombé par des dialogues particulièrement mauvais, même dans leur volonté de rendre hommage à un certain cinéma d'antan. Malgré les moyens mis en œuvre, bon, la direction artistique est plutôt cheap et fleure bon la série B des années 90, genre Fortress. Le Suédois Michael Avstrom, réalisateur du plutôt réussi Chambre 1406, une adaptation de Stephen King, hein, se contente du minimum syndical en termes de mise en scène. Voilà, l'ensemble, c'est n'est pas désagréable à visionner, mais aussi vu de vie, vite vu, oublié.
Hein. Ouais.
S'il y a une apparition, alors on ne sait pas ce qu'il fait là-dedans, c'est de Sam Neill, un acteur que j'aime énormément et qui apparaît dans le rôle d'un médecin. Et son personnage est rapidement inintéressant et sacrifié. C'est assez curieux. Je pensais qu'il aurait plus d'importance.
Ben non. Ouais, c'est comme ça. Hein. En tout cas, on ne le conseille pas forcément. Et par contre, on va pouvoir jouer au blind test et découvrir... les films dans lesquels a pu jouer Schwarzenegger, qui a quand même une grosse filmographie
hein, ouais. Depuis les années 70, quand même.
Hein. Ouais, même s'il a fait un petit intérim politique. Premier extrait.
Cher ange, c'est notre dernière nuit en tête-à-tête.
Oui. Demain, à cette heure-ci, vous serez dans les bras de votre père à l'abri du danger.
Moi, je n'ai pas du tout sommeil, et vous?
Je tiens le coup. Je suis bien réveillé.
Ah, c'est une chance. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
J'ai une idée.
Quoi?
Si vous voulez, on peut jouer au farade.
Je vais chercher du bois pour le feu.
Voilà, c'est
True Lies?
Non, c'est pas tout. True Lies. Non, c'est un film de 79.
Oh, je le connais pas.
C'est Cactus Jack. Et oui, c'est une espèce de western parodique. Ouais. Et là, ils m'ont mis une voix vraiment détestable en version française. Mais c'est une espèce de benet qui est aux prises avec une ancienne prostituée qui se refuse complètement à elle parce qu'il comprend même pas qu'elle le désire. Bref, deuxième extrait.
Tu as tué mon père, tu as tué mon peuple et tu as volé l'épée de mon père. Oh, oh. J'ai peut-être fait ça lorsque j'étais jeune. Il fut un temps, mon garçon, où je recherchais l'acier. Et l'acier était plus important pour moi que l'or ou les joyaux. Le secret de l'acier. Oui. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas, mon garçon? Dois-je te le dire? C'est le moins que je...
Voilà, ça a été trouvé facilement, hein, ça c'était facile.
Bah, Conan le Barbare.
Voilà. Je vais essayer d'alterner d'ailleurs les films un peu, le registre de la comédie avec les films où on avait besoin de ses muscles plutôt. Troisième extrait.
Que voulez-vous, monsieur Quaid?
La même chose que vous, je veux me souvenir.
Mais pourquoi?
Pour redevenir moi-même.
Vous êtes ce que vous faites. Un homme se définit par ses actes et non par ses souvenirs. Venez, Prenez mes mains. Maintenant, ouvrez-moi votre âme, s'il vous plaît. Ouvrez votre âme.
C'est le médium dans
Total Recall de Paul Verhoeven.
Oui. Donc, film de 90. Un nouvel extrait.
Il y a les gars de la sécurité routière qui veulent me carrer une fanfare dans le fion parce que vous avez bousillé leur avion. Il y a le maire et le conseil municipal qui me broutent les roustons à cause du foutoir que vous avez mis sur la place. Tout le monde me tombe dessus. On me demande où est qui, comment et pourquoi. Est-ce que je me fais bien comprendre?
Je fais juste mon boulot, c'est pas toujours simple.
À cause de vous, notre commissariat a la plus mauvaise réputation de tout le comté. Il y a les gens pas faits de la chambre de commerce qui se sont donné le mot pour me danser la lambada dans le couloir à l'antique.
Hatcliffe, vous ferez équipe avec Moustache.
Salut, Macaï. Ça te brancherait qu'on aille se dépucer ensemble?
Ne me touche pas, c'est compris, Ratapoil.
Regarde, j'ai la preuve qu'on est dans un film.
Chut, qui es-tu, sale gosse?
Ce chat de dessin animé, là, d'où il sort, celui-là?
Il reprend son poste aujourd'hui, après une mise à pied d'un mois. Tu la fermes?
Tu écoutes un peu ce que je dis. Un chat de dessin animé vient d'entrer dans votre commissariat. Ouh!
Comment est-ce possible? Donc c'est...
Évidemment, c'est Last Action Hero de Mac Tiernan.
Donc film plutôt réussi. Hein,
ah oui, superbe mise en abîme de tout le cinéma d'action américain. Enfin, c'est vraiment très très bien.
Plein clin d'œil. Là, c'est facile.
La série précédente avait une peau synthétique. Ils étaient faciles à repérer. Mais pas lui. Il est comme un être humain. Il transpire. Parle même comme toi et moi. On s'y tromperait. J'ai dû attendre qu'il attaque avant de pouvoir le repérer.
Écoute, j'ai peut-être l'air stupide, mais des êtres comme ça, ça n'existe pas encore.
C'est vrai. Pas avant 40 ans.
Et là, c'était facile, donc c'est...
Terminator.
Voilà, donc ça, c'était le 1, hein, film de 84. Et puis, il y avait un autre extrait facile à trouver.
Hasta la vista, baby.
Donc ça, c'était le... Terminator 2.
Dans 2, oui.
Voilà, donc le blind test touche à sa fin. Alors, pour finir, vraiment, là, une espèce d'ovni.
Je crois que vous vous connaissez tous.
Salut, les gars.
Salut.
Comment ça va?
C'est votre amant?
Mon quoi?
Faites attention à ce que vous dites.
Je sais très bien ce que je dis, j'attends seulement une réponse.
Eh bien, vous n'allez pas en entendre plus si vous ne vous excusez pas tout de suite.
M'excuser? Pour lui avoir rendu hommage?
Hommage? Vous l'avez insulté.
Une belle femme qui a un homme pour ami ne peut pas être autre chose que sa maîtresse.
Ne parle pas
autrement
comme ça.
Autrement, pour moi, ce n'est pas naturel, si elle ne l'est pas.
Très bien, vous l'aurez cherché.
Voilà, on est dans la catégorie des nanars, là, clairement. C'est le premier film,
c'est
en fait.
C'est pas un truc qui s'appelle Pumpkin Iron ou un truc comme ça?
C'est Hercule à New York.
Hercule à New York.
Qui avait un autre titre auparavant, donc film de 70. C'était son premier rôle, en fait, au cinéma. Il a essayé, paraît-il, de racheter la bobine, de tout racheter pour plus pas qu'on le voie, mais ça n'a pas été possible. Voilà. Et c'était vraiment un navet intégral. Avec
un peu comme Stallone, quoi, qui avait fait l'étalon italien aussi.
Ouais, c'est pareil.
Un
ouais.
film érotique dans les années 70.
Ainsi s'achève ce blind test. Nous passons maintenant à
Fury de Brian De Palma.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
L'extrait.
Et DVD chez Carlotta dans une édition restaurée est l'occasion de réévaluer l'un des titres les plus sous-estimés de Brian De Palma. Une œuvre secrète un peu à part et souvent considérée comme mineure à côté des classiques comme Phantom of the Paradise, Obsession ou Blowout. Le film a souvent été considéré comme un moyen opportuniste de jouir à nouveau du succès de Carrie réalisé 2 ans auparavant. S'il est bien question d'une jeune femme ayant des pouvoirs de télékinésie, Fury n'a pourtant rien à voir avec Carrie. Adapté d'un roman de John Faris, qui signe là aussi le scénario, ce thriller fantastique débute d'ailleurs par une séquence magistrale de trahison située sur une plage du Moyen-Orient. Peter et Ben, deux amis de longue date, se prélassent sur une terrasse et évoquent le bon vieux temps. Ils abordent vaguement le caractère spécial du fils de Peter, qui s'appelle Robin. La caméra tournoie autour des personnages pendant qu'en arrière-plan, on pressent quelque chose de suspect. Avec un sens du timing et de l'espace, De Palma crée une tension diffuse qui explosera lors de l'attaque terroriste dans laquelle Peter est soi-disant laissé pour mort. Le but de cette mise en scène est de kidnapper Robin à des fins politiques, comme dans beaucoup de films de De Palma. Hanté par la trahison, le commanditaire de l'attentat n'est autre que Ben, chef de file d'une organisation secrète visant à utiliser les pouvoirs psychiques de Robin. Donc Peter survit et se jure de retrouver son fils. Un an plus tard, une jeune fille découvre qu'elle possède des pouvoirs de médium. Elle est repérée par un programme de recherche. Dès lors, sa vie est menacée, mais elle est peut-être la seule chance pour Peter de retrouver son fils. Bon, le scénario est un peu complexe comme ça, mais vraiment assez bien fait. Fury, c'est une œuvre hybride, en fait, à la croisée des genres. Au premier abord, il s'inscrit dans un courant à la mode dans les années 70, le film politique paranoïaque, à côté de films comme Les Trois Jours du Condor ou À cause d'un assassinat. Mais De Palma n'est ni ciné-polac, ni Alain Pakula. L'argument politique, en dépit du pessimisme du récit, devient presque secondaire. Le relatif échec public et critique provient sans doute de l'absence d'explication sur l'intérêt de se servir des pouvoirs de ces jeunes X-Men. La virtuosité et la dimension émotionnelle du film éclipsent les zones d'ombre et les quelques incohérences qui jalonnent le film. En mêlant donc thriller surnaturel et exercice hitchcockien à la manière de La Mort aux Trousses, De Palma livre un film lyrique, sombre et romanesque, parsemé de morceaux de mise en scène uniques. La fuite de la jeune fille, Gillian, permet à De Palma de rejouer la grammaire hitchcockienne de façon quasi opératique, avec étirement du temps, multiplication des points de vue, la musique surdramatisant le suspense et les ralentis vraiment très bien utilisés grâce à un montage sophistiqué. Bref, Fury possède un esprit feuilletonesque et hétéroclite qui tranche avec la rectitude de Carrie, très simple dans sa narration, qui le rapproche au fond de certains films de Fritz Lang, notamment les Docteurs Mabuse. Les rebondissements incessants ne nuisent jamais à la cohérence de ce beau film fantastique. Ils apportent une énergie, une folie à une histoire oedipienne qui finit par émouvoir. Voilà. Et faut dire, il y a un extraordinaire et explosif, c'est le cas de le dire, épilogue, qui confirme le goût du cinéaste pour les fins pessimistes et chocs, loin du rêve hollywoodien et des happy ends faisant des. Bon, pour ceux qui n'ont jamais vu le film, je n'en dirai pas plus, hein, mais John Cassavetes, il prend très cher. J'oubliais bien sûr, hein, le casting est assez alléchant, puisqu'il y a Kirk Douglas, John Cassavetes, et puis la jeune Amy Irving, qui est très très bien, et qui était à l'époque la femme de Steven Spielberg. Donc allez voir louez-le, hein, ou achetez-le. Il sort donc en Blu-ray chez Carlotta, un très bon éditeur. L'image est splendide en plus.
D'accord. Eh bien, je pensais à Kirk Douglas. Il joue dans Cactus Jack. C'est pour.
Ah bon, d'accord.
Oui, il joue dans ce western parodique.
Mais il a joué dans quelques nanars, Kirk Douglas, dans la fin des années 70 et même dans des bisseries italiennes comme Holocaust 2000. Enfin, il n'a pas eu... La fin de carrière de Kirk Douglas, elle est plus chaotique, on va dire.
Ah, c'est étrange, hein, pour quelqu'un qui vraiment a baigné dans le grand cinéma, a aidé Stanley Kubrick, enfin voilà. Très étrange.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes.
Jeudi 21, c'est Casse-tête chinois de Cédric Clapiche. Ce sera au Gaumont Multiplex à 20h. Alors, il y aura Cédric Clapiche et Romain Duris qui seront présents. Et oui, tu fais la tête, Manu, mais, mais moi, je les vois demain.
C'est parce que j'aime pas l'auberge espagnole.
Moi, j'avoue que je suis pas forcément fan du cinéma de Clapiche. Mais bon, enfin voilà, on les aura en interview demain. Vendredi 22, Hunger Games 2, c'est à 20h30, c'est au Multiplex, donc c'est une avant-première, hein, puisque ça sort mercredi prochain. Dimanche 24, toujours au Multiplex, c'est Belle et Sébastien, à 13h45. Lundi 25, on remet Hunger Games 2, mais cette fois-ci, c'est en version originale sous-titrée, c'est à 20h30 et ce sera au Gaumont Comédie. Et puis à l'Utopia, eh bien, ce sera l'occasion d'écouter de la musique, notamment avec un film Viramundo, c'est un voyage musical avec Gilberto Gil. Et la projection sera suivie d'un apéro-concert, c'est dans le cadre du 6e Festafilm, le festival de films lusophones et francophones de Montpellier, dont on aura l'occasion de parler dans les prochaines émissions de Cinérama.
Et le 24...
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Manu, tu nous disais, pour 24 notes secondes?
Eh bien, c'est consacré à Johnny Guitar, ce magnifique western de Nicolas Ray avec Sterling Hayden et John Crawford.
Et donc, ce sera toute la musique, hein, autour de ce film. Mmh. Voilà. À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il y Y a pas de saint, y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.